Recevez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu d'aujourd'hui vient du livre de Philippiens, le chapitre 4. Philippiens 4, je vais lire du 1er au 7e verset. Je vais le lire lentement, afin que chacun puisse glaner quelque chose qui convient pour ce cœur aujourd'hui. Philippiens 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Mes bien-aimés, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je prie de les aider. Elle qui a compati pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Seigneur, donne-nous ta parole, ton pain. Pierre a dit, où irons-nous? Nous voulons rester chez toi. Parce que toi, tu as la parole de vie et tu nous donnes ton pain. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons compter sur la fidélité de Dieu. Compter sur la fidélité de Dieu et lui rendre grâce. C'est ça que nous allons tirer de ce texte que nous avons lu dans Philippiens. En fait, quand vous traversez le livre de Philippiens, Paul, dans cet épître, fait appel à la joie et à la réjouissance. En tout cas, vous ne pouvez pas lire 10 versets sans lire le terme « joie ». Soyez joyeux, réjouissez-vous. Et donc, il appelle le peuple à la joie. On ne peut pas donner la joie si on n'a pas la joie, n'est-ce pas? Cela signifie que Paul à la joie. C'est l'homme le plus joyeux. Mais lorsqu'il écrit cet épître, il est en prison. Sa joie vient d'où, en fait? Un prisonnier qui enseigne la joie aux autres. C'est un peu difficile, hein? Et son secret. Si vous voulez le secret, vous le trouvez au chapitre 4. Je vais vous lire lentement son secret. Chapitre 4, verset 11b. Jusqu'à 13, il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir la faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. À d'autres termes, je sais compter sur le Seigneur dans toute situation. Et c'est pour cette raison-là que je suis joyeux à chaque instant. C'est un degré élevé de la joie. Apprendre à être joyeux dans toutes les circonstances, c'est un degré élevé que pas n'importe qui peut l'atteindre. Et alors donc, nous devons entrer dans cette école de Paul et commencer à désirer, à être comme lui et à apprendre. Parce que souvent, c'est seulement lorsque nous sommes rassasiés que nous sommes joyeux. En tout cas, essayez de rentrer en vous-même et voir comment vous vous comportez quand vous êtes affamé. La joie affamée, c'est seulement chez Paul, hein? C'est seulement chez Paul, très joyeux, mais affamé. Oui. C'est quand il y a abondance qu'on peut parler de la joie. Mais la disette, la pauvreté, ça se trouve seulement chez Paul. On peut apprendre ça seulement chez Paul. Avoir la joie dans la disette. C'est donc un degré élevé de l'intimité avec Dieu. Que le Seigneur nous aide à être comme Paul. Apprendre à compter sur Dieu dans toutes les circonstances. C'est ce que nous apprenons de ce verset. Comptez sur Dieu dans toutes les circonstances. Alors, c'est Paul qui est heureux en prison. Vous devez avoir vu des concepts qu'il utilise au premier verset. Nous allons les en prendre ensemble. Regardez très bien le premier verset que nous avons lu. C'est Paul, le plus heureux en prison, veut rendre les autres heureux. Celui qui a la joie veut donner la joie à d'autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne donne que ce qu'on a. Et alors, voyez les concepts que Paul utilise. Au premier verset, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Il s'adresse aux Philippiens, il dit, vous êtes mes frères. Paul veut constituer une communauté où il y a des liens fraternels. Je crois que nous, entre nous, frères et sœurs, il y a des relations bien tissées, des joies. Et alors Paul veut que les gens s'appellent frères et sœurs. Si vous voulez rendre l'autre heureux, il ajoute, vous êtes mes bien-aimés. Vous êtes mes bien-aimés. Il parle aux Philippiens comme bien-aimés. Et à cause de cela, il peut les reprocher et les réprimander comme des bien-aimés. Et c'est ce que nous pouvons lire en verset 2. Bien-aimés, vous êtes ma joie. Je crois que ça, vous trouvez aussi dans le premier verset. Vous êtes ma joie. Lorsque je vous rencontre, j'ai la joie. Ça ne peut que rendre les gens heureux. Lorsque vous avez la joie, parce que vous m'avez rencontré. Et alors il ajoute, vous êtes ma couronne. La couronne, ça signifie la récompense. Récompense d'un grand travail d'évangélisation que Paul a fait. Alors, il peut dire, vous êtes ma couronne. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, vous êtes mes bien-aimés, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne. Si ces termes peuvent s'utiliser à Gomaville, alors nous allons constituer une communauté heureuse. À l'exemple de Paul, des gens qui comptent sur Dieu, des gens dont les noms sont déjà écrits dans le livre de vie. Il reproche Evodie et Saint-Tiche parce qu'ils ont eu des malentendus. Il dit, rappelez-vous mes sœurs, que vos noms sont déjà écrits dans le livre de vie. Et donc, si nos noms sont déjà écrits dans le livre de vie, pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Pourquoi encore avoir des tiraillements entre nous? Il dit, rappelez-vous de ça et rendez grâce. Est-ce que nos noms sont déjà écrits dans les livres de vie? En fait, pourquoi nous devons rendre grâce à cause de ça? Avoir des noms écrits dans le livre de vie. Pour rendre grâce à cause de ça, il faut se rappeler de ce que nous avons été bien avant. Avant que nos noms ne soient écrits dans les livres de vie. Nous étions comment? Il y a une semaine, j'étais dans une congrégation et j'ai dit que si un prédicateur se tient ici et dit, fermons les yeux, et il demande à chacun de nous, il dit, tout le monde va se lever et nous dire comment il a été avant de recevoir Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faisait? Je suis sûr que on va ouvrir les yeux et une partie du temple, les gens ont déjà fui. Parce qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont fait avant de recevoir Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons tous péché, tous. Et Esaïe dit, et nous étions perdus comme de brebis. Et chacun suivait sa voie. Esaïe 53, verset 6. Et à la fin de cette voie de perdition, Il n'y avait qu'un trou, l'affaire. Il n'y avait rien de joie là-dedans. Nous étions donc déjà morts. Ce n'est pas surprenant de trouver parmi nous ici des gens qui étaient des sorciers avant que leur nom ne soit écrit dans les livres de vie. Ne soyez pas surpris si quelqu'un se lève pour dire « Bon, en fait, vous me voyez ici, mais moi j'ai été sorcier. » Il ne faut pas dire « Eh, tout jongé. » C'est ça notre situation. C'est ce que nous avons été avant que nos noms ne soient écrits dans les livres de vie. Des sorciers, peut-être qui sont ici. Des adultères, peut-être qui sont ici. Des prostituées. Bon, ceux qui ont été prostituées, en fait, il faut que je conjugue au passé. Des menteurs peuvent être ici. Des bandits armés, des 40 voleurs. Ne soyez pas surpris qu'on trouve qui sont ici. Ils étaient avant de recevoir Jésus-Christ, avant que leur nom ne soit écrit dans les livres de vie. Des ivrognes. Mais pourquoi ils sont ici assis calmement? Parce que ils ont appelé le nom du Seigneur. Ils ont compté sur lui. Ils ont été acceptés. Et leurs noms sont écrits dans les livres de vie. Amen. Pourquoi ne pas rendre grâce pour ça? David s'est rappelé de ça. David était un grand hypocrite. Un hypocrite. Oui. Un insensé. Un adultère. Il a pris la femme d'Uriah. Tout un roi. Et puis il a essayé de camoufler, de cacher. Ça n'a pas tenu. Alors il a décidé de tuer. Il a décidé d'être un insensé. David, quand il se rappelle que ses péchés sont pardonnés, il n'a rien autre chose que de dire « Je rends grâce à Dieu parce qu'il a pardonné tous mes péchés. » Et donc c'est pourquoi vous voyez des gens assis calmement parce que les péchés, tous les péchés ont été pardonnés. C'était une situation chaotique. Et on peut lire cette situation. Je vais vous apprendre comment on lit cette situation. Nous tournons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Comme enseignant de l'école de dimanche, je vais vous apprendre comment lire ce verset calmement et le mémoriser. On va lire la première partie du premier verset et la dernière partie du verset 5, ou bien la première partie du verset 8. Ce verset dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et la dernière partie du verset 5 dit, « C'est seulement par la grâce que vous êtes sauvés. » Ou bien le début du verset 8. Bon, à maternelle, c'est déjà long. Mais pour que les enfants de la maternelle puissent mémoriser, il faut seulement dire, « Vous étiez morts, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Là, les enfants de la maternelle peuvent mémoriser. Et c'était ça, effectivement, notre situation. Vous étiez morts. Si vous êtes ici, c'est seulement par la grâce. Ça se dit très bien à Kiswahili. Mana ke gisi munaniona hapa nilikuwa nilishakufa tu. Kama munaniona tena mimi naishi, ni neema ya Mungu. Vous n'avez jamais entendu des gens qui disent ça? Mais il a connu un accident. On voulait avoir un accident mortel, il dit. Tulikuwa tulishakufa tu. Kama munatuona tunaishi, ni neema ya Mungu. C'est ça la situation qui est écrite en Éphésiens. Vous étiez morts. C'est ça la situation. Si chacun se rappelle de sa situation, il était mort. C'est par la grâce de Dieu qu'il peut se retrouver ici. Et c'est pour cette raison que nous devons rendre grâce à Dieu. Bon, imaginez la situation d'un mort. Qu'est-ce qu'il faut faire d'un mort? Rien. Nos frères soignants que je vois au milieu de nous, lorsqu'on vous amène une personne morte à l'hôpital, qu'est-ce que vous dites? D'ailleurs, ils nous reprochent, ils disent, ah, mais comment vous allez nous amener un corps sans vie? Alors, ils prennent les stylos, ils écrivent, corps sans vie amené à la morgue. C'est ça la situation à l'hôpital. Donc, nous étions des corps sans vie. Et ce sont ces corps sans vie qu'on amène à Jésus. Qu'est-ce que Jésus va faire d'eux? Heureusement que c'était Jésus. Si c'était 100 ans, il écrirait sur chacun de nous corps sa vie amenée en enfer. Mais heureusement, on nous a amenés chez Jésus. C'est lui-là qui est la vie. C'est lui-là qui peut nous ressusciter physiquement et spirituellement. C'est lui-là qui nous donne la vie éternelle. Alors les corps sa vie sont vivants. Nous ne sommes pas allés en affaires, nous ne sommes pas allés dans la morgue. Nous sommes bien assis, joyeux, dans ce temple. Et donc, nous pouvons élever le nom de l'Éternel. Rendez grâce à l'Éternel, vous tous qui étiez morts, et que maintenant, vous êtes quoi? Vous êtes vivants. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand vous vous rappelez de ça, faites quoi? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et Paul dit, et je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est quelque chose pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu aujourd'hui. L'occasion nous est présentée. Alors, voici comment vous allez vous comporter l'année 2003. 2023. Ah, je fais vraiment une marche en arrière, 20 ans. 2023. La première chose, Paul nous dit que votre douceur soit connue de tout le monde. Ça doit être un engagement de chacun. Hein? Que notre douceur soit connue par tout le monde. La douceur, c'est quoi? La douceur, c'est la douceur. On ne peut passer qu'à l'amour. La définition de la douceur est difficile, hein? Mais c'est une vertu qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas se tromper. La douceur ne peut pas se cacher. La douceur, c'est un fruit du Saint-Esprit. Et donc, on ne peut pas se tromper que vous avez la douceur alors que vous ne l'avez pas. Ça va donc se manifester. Que cela se manifeste à Gomaville cette année 2023. Et effectivement, les bénéficiaires de cette douceur pourront faire pas autre chose que de rendre grâce à Dieu. Parce que tout le monde a la douceur de Jésus-Christ et de l'Esprit en eux. Ça peut être intéressant de vivre dans une communauté où tout le monde a la douceur du Saint-Esprit. Alors nous allons bien ouvrir les yeux en 2023 pour voir si votre douceur va se manifester à tout le monde. Deuxième élément pour 2023, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, dit le Seigneur. Paul répète ça ici. Mais le Seigneur le dit, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, c'est un problème. L'inquiétude nous expose. Si une personne est inquiète, cette personne va murmurer. Si une personne est inquiète, cette personne est dans un danger de ne pas mettre sa confiance à Dieu. Parce qu'il s'inquiète. Il s'inquiète. L'inquiétude nous affaiblit. Ça affaiblit notre foi. Alors, Paul nous exhorte et dit, ne vous inquiétez de rien. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais alors, voici son secret. Comment combattre l'inquiétude? Paul continue. Il dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu par la prière. C'est ça l'antidote de l'inquiétude. Faites connaître à Dieu par les supplications, par les actions de grâce, vos besoins à Dieu. Voilà le secret de la victoire sur l'inquiétude. C'est la prière qui résout nos problèmes. C'est la prière qui nous permet de ne pas murmurer. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Jésus a dit ça, hein? Ce que vous allez boire, ce que vous allez vous habiller. Cette année 2023, ne vous inquiétez pas. Nous remercions le Seigneur qui nous a fait 2 semaines de prière. C'était inspiré, afin que les gens apportent toutes leurs inquiétudes à Dieu pendant 14 jours. J'espère que vous avez amené vos inquiétudes, hein, tout au début de cette année. Ne vous inquiétez de rien. Pierre a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que il prend soin de vous. Il n'y a pas un autre secret. Le secret, c'est faites connaître à Dieu tous vos besoins par vos prières. L'année a démarré et la paroisse est très disposée à vous accorder toutes les autres occasions pour que vous puissiez apporter vos soucis au Seigneur par la prière. Préparez-vous donc, c'est comme ça que ressemble l'année 2023. Ne portez pas vos inquiétudes, prenez l'occasion de les présenter au Seigneur par vos prières. Priez sans cesse, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, on peut l'expliquer dans tous les sens. Le Seigneur est proche. Premier sens, il est proche parce qu'il veille sur nous, sur chacun de nous. On ne peut pas veiller sur quelqu'un tout en étant éloigné, n'est-ce pas? Oui. Si le Seigneur veille sur nous, ça signifie qu'il est proche. Bon, imaginez qu'on vous dit, veillez sur ce bébé. Vous allez veiller sur ce bébé tout en étant à Mugunga. Non, c'est pas possible. Lorsque le Seigneur veille sur nous, il le fait tout en étant proche. Il est proche, effectivement. Proche de chacun de nous. Il vous observe. Il sait ce que vous faites. Il sait là où vous allez. L'image éloquente du Seigneur proche, c'est Jésus-Christ lui-même. D'abord, il est né comme nous pour s'approcher de nous. Hier, ceux qui ont fait la méditation dans ce petit bouquet de la bonne semence, il y avait une très belle idée que Jésus-Christ est né pas au palais. Parce que s'il était né au palais, les bergers n'allaient pas aller les rendre visite là-bas. On allait les arrêter à la porte, dire hey, vous venez d'où? Bon, nous sommes les bergers. Bon, voyez comment vous ressemblez. Et vos pieds là, et vous n'êtes même pas habillés. Les bergers seront arrêtés, ils ne seraient pas au palais. Mais pour que Jésus-Christ soit proche de nous, il est né dans une mangeoire. Et alors, les plus pauvres, les bergers, peuvent arriver dans une mangeoire. Le Seigneur est proche, proche de nous. Il est né comme nous. Il est né dans une famille. Imaginez, il a parlé notre langue. Le Seigneur n'a pas parlé la langue du ciel. À Galilée, il a parlé notre langue. Il a mangé notre nourriture. Si c'était du foufou, il prendrait du foufou. Il en a mangé à Galilée. Le Seigneur est proche. On l'a vu dans les quartiers. Il est allé même au mariage. N'est-ce pas? Et au deuil. Bon, si le Seigneur va au mariage et au deuil, qui êtes-vous? Jésus était au mariage, proche. Tout ça, nous lisons dans les Saintes Écritures. Donc, le Seigneur est proche. Il a pris les pirogues sur le lac Galilée. En tout cas, il n'y avait pas un bateau spécial pour Jésus. Il est entré dans des pirogues de pierre et autres choses. Il a été proche de nous afin que nous puissions accéder à lui. Le Seigneur est proche. Lorsqu'il veut veiller sur nous, il est proche. Mais aussi, le Seigneur est proche, ça signifie sa venue est imminente. Oui, le Seigneur peut venir cette année 2023. Est-ce que c'est un sujet de réjouissance? Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Réjouissez-vous l'année 2023 parce que le Seigneur est proche et sa venue est imminente. C'est un sujet de joie. Paul, pour montrer que c'était sujet de joie, il écrit au verset 20-21 du chapitre 3 et il dit, notre cité est dans le ciel. Lorsque Jésus revient, il transformera nos corps de misère pour les rendre conformes à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Le Seigneur est proche, il peut revenir à 2023 et c'est un sujet de joie. Amen. Alors au verset 7, le dernier verset, le Seigneur nous promet la paix. La paix, pas comme les autres les donnent. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Je vous donne pas comme le monde le donne. Christ promet à chacun de nous la paix au cours de cette année 2023. Amen. La paix dans nos âmes. La paix et non l'inquiétude. Christ ne peut jamais promettre l'inquiétude. Cela signifie que si vous avez l'inquiétude, ça ne vient pas de Christ. Christ a promis la paix. Tous ceux qui ont l'inquiétude, soyez sûrs que ça vient d'une autre personne ou peut-être de Satan, mais pas de Christ. Lorsque Christ promet, il promet quoi? La paix. Il dit, je vous donne ma paix. La paix qui vient, la paix que je donne à tout le monde, à tous ceux qui croient à mon nom. Cette paix-là est promise à tous ceux qui réalisent tout ce que nous avons déjà dit. Ceux qui se réjouissent dans le Seigneur, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, ceux qui cherchent à tout prix la douceur, ceux qui se présentent par la prière devant le Seigneur, ceux qui attendent le retour du Seigneur. Jamais, il n'y a personne qui attend le retour du Seigneur et qui n'a pas la paix. Cette paix-là est promise à tous ces gens-là. Et le Seigneur nous demande de prendre cette paix pour nous et de l'utiliser toute l'année 2023. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.